Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour à tous.
De Ben.
Salut.
Et de Mordren.
Salut tout le monde.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de nouveau de Tyranny. On enchaînera ensuite sur une nouvelle plateforme qui s'appelle Horizon. Nous évoquerons le très mal aimé Metroid Prime Fédération Force. Du côté de Hitman, eh bien, nous évoquerons les facéties du studio de développement qui a apparemment quelques soucis avec son système de sauvegarde, n'est-ce pas? Et enfin, pour terminer, nous parlerons bien évidemment de Final Fantasy XV. Square Enix a mis les petits plats dans les grands. Série animée, démo, une date de sortie, un film, que sais-je. Enfin bref, il y a plein de choses dont on doit parler cette semaine. En plus, mes comparses ici y ont joué. Donc voilà, vous aurez également des avis sur la démo. Bon, on va commencer avec Tyranny. Je vous avais déjà parlé dans notre précédent numéro de ce RPG d'Obsidian. Depuis, on a eu quelques précisions, n'est-ce pas? Il se trouve que c'est un monde, en fait, où tu as une nation qui a conquéri les autres, et en gros, le setting va principalement se passer dans la dernière nation qui a été soumise. Donc là où c'est intéressant, c'est que justement, comme c'est les derniers à avoir été conquis, il y a sûrement encore quelques tensions, n'est-ce pas, localement. Donc du coup, j'imagine qu'il va falloir pacifier tout ça, hein? On va filer droit, messieurs. Il y a un système de réputation à la New Vegas, et vous savez tout l'amour que j'ai pour New Vegas, n'est-ce pas? Il y aura pas de système de classe de personnage, très important. Ce qui me plaît moins, par contre, c'est que le système de progression, c'est un système à la Elder Scrolls, c'est-à-dire que, en gros, c'est quand vous effectuez une action, que vous apprenez de plus en plus à faire cette action. Si vous utilisez pas un pouvoir, etc., ben vous allez pas progresser dans ce pouvoir. Personnellement, je suis pas super fan de ça, parce que, par exemple, quand tu utilises un sort occasionnellement, c'est un sort qui peut être vachement utile, mais tu n'en as besoin que dans certaines occasions, et du coup, ben avec un système comme ça, tu pratiques pas assez, tu peux pas l'améliorer, quoi. Enfin, moi, je suis pas super fan de l'idée. Le système de combat, ce sera avec 4 persos. Bon, à voir. En général, je préfère des escouades un peu plus grandes dans ce type de jeu, mais bon, on verra bien. Le système de combat, c'est du temps réel avec pause, calqué apparemment sur celui de Pillars of Eternity. On a un peu plus simplifié apparemment. Comme je vous l'avais dit, si c'est un jeu qui est énormément basé sur les dialogues, et apparemment ça va l'être, parce que vous allez voir ensuite, quand on va parler de la durée de vie, le fait qu'il y ait trop de combats, je pense que ça nuira au rythme de jeu. Et enfin, donc, le système de compagnons, où, en gros, quand vous allez vous entendre avec des compagnons, vous pourrez débloquer des nouvelles compétences, des combos avec eux, etc. Et ça, c'est bien cool. Mais surtout, le gros morceau, et là où je pense que nous allons pas mal débattre, messieurs, c'est le morceau sur la durée de vie. Alors, le jeu est annoncé avec une durée de vie d'environ une vingtaine d'heures. Mais attention, subtilité. Le jeu sera énormément rejouable, un peu à la Alpha Protocol en fait. Alpha Protocol était un jeu assez court, mais finalement, tu pouvais y rejouer plusieurs fois pour tester plusieurs routes, etc. Et là, donc, je me tourne vers vous, messieurs, est-ce que ce type d'idée, ça vous plaît ou pas?
Moi, les RPG, quand ils sont courts, en fait, ça a tendance à moins me faire peur, parce que, vous le savez, j'ai pas beaucoup de temps, et parce que moi, j'aime bien les RPG. Le truc, c'est que les RPG, c'est connu pour être long. Et donc forcément, c'est des trucs qui me... ça me donne pas forcément envie de les acheter, parce que je sais que je pourrais pas vraiment y jouer. Un truc qui est peut-être un petit peu plus resserré, pourquoi pas.
Ben, notre grand amateur de RPG.
Ouais, alors c'est, maintenant, je suis un peu dans le même cas que Mordren, c'est que autant à l'époque, quand j'avais le temps, ça me gênait pas de passer 80 heures sur un jeu s'il me plaisait.
Tu veux dire que maintenant tu travailles et que tu as une vie de couple?
C'est ça, exactement. Donc maintenant c'est un peu plus difficile. Et en plus, à moins que le jeu soit vraiment génial, j'ai du mal à trouver la motivation pour m'y mettre dedans, pour y jouer assez régulièrement. Parce que, si c'est un RPG qui a... Alors après, c'est pas le cas de tous, mais s'il y a une histoire qui vaut le coup, t'as pas envie de t'arrêter pendant un mois, de reprendre après, d'être un peu perdu, etc. Donc c'est vrai que moi, le côté rejouable et finir l'histoire en une quinzaine, vingtaine d'heures et pouvoir la rejouer en... Alors après, il faut qu'il y ait plusieurs, entre guillemets, fins possibles. Après, on sait que voilà, dans ce genre de jeu, il y a toujours plusieurs chemins, entre guillemets, on peut faire plein de choses différentes.
Je précise, dans ce jeu-là, non seulement il y aura plusieurs fins possibles, mais apparemment, il y aura plusieurs commencements possibles. C'est-à-dire, en fonction de la création du personnage, tu vas influencer le début de l'histoire.
Voilà, il faut qu'il y ait un réel intérêt à y rejouer aussi. Il faut pas que ça soit juste, on fait un jeu court pour les casu gamers, entre guillemets.
Pour les vieux.
Non, mais voilà. Il faut pas que ça soit l'effet inverse, dire, ah ben, on fait un jeu court, il sera rejouable, mais il faut qu'il y ait un intérêt à cette rejouabilité. Pour ceux pour qui ça suffit de faire une fois le jeu, ben, même s'ils explorent pas tout, ça leur conviendra. Et puis, pour ceux qui sont vraiment amateurs et qui ont le temps, ben, ils pourront le refaire en prenant d'autres chemins, d'autres, en ayant une autre fin, un autre début, etc. quoi. Donc moi, ouais, je trouve ça vraiment pas mal. C'est un peu s'adapter aussi peut-être aux gens actuels. C'est vrai que le compute RPG, c'est pas forcément le truc le plus attractif pour les jeunes joueurs, on va dire. Donc moi, je trouve ça pas mal.
ATH.
Le fait que le jeu soit long ou court, c'est pas ça dont va dépendre la qualité totale du jeu. Donc
pourquoi je pose cette question aussi, parce que c'est quand même un genre où l'histoire quand même prend du temps à être développée, et du coup, je pense que certes c'est intéressant, mais si tu veux, est-ce que quelque part c'est pas risqué aussi, parce que 20 heures pour un RPG, c'est très court pour développer une histoire qui est intéressante, quoi.
Ouais, mais en 20 heures, t'as le temps de faire quelque chose quand même déjà.
T'as le temps, mais disons que c'est moins simple.
Oui, c'est moins simple, mais bon. Je pense que ça peut être vachement intéressant, bah déjà pour ceux qui ont peur par rapport aux RPG qui sont assez longs. Mais moi, par exemple, tu vois, je suis un peu dans le même cas que Ben. Mais par contre, de jouer à un RPG comme Witcher 3, ça me fait pas peur du tout, parce que avant, on va dire que si je pouvais me faire plusieurs RPG en même temps, etc., bah là, même si un jeu est super long, j'y vais jouer, mais ça me prend plus de temps, mais ça va me durer plusieurs mois.
Ouais, c'est
alors
ça.
Que avant, on va dire que une semaine après, le jeu, je l'avais terminé, je l'avais retourné dans tous les coins, parce que ouais, voilà, mon point du temps était plus souple à ce niveau-là. Là, le fait qu'il dure 20 heures, je pense que ça peut être sympa, si c'est bien fait en fait. Et après, moi, voilà, c'est pas parce qu'un RPG est long que s'il est chiant sur le long terme, bah au final, qu'il soit long ou court, ça t'aurais préféré qu'il soit court, quoi, en fait, à ce niveau-là.
Et moi, ce que je trouve intéressant avec cette approche, surtout, c'est que le studio peut plus se permettre de travailler, comment dire, la partie roleplay du jeu, en fait. C'est-à-dire que du coup, tu peux vraiment te permettre, avec un jeu court, de proposer beaucoup plus d'alternatives. Et le fait de proposer beaucoup plus d'alternatives, contrairement à un jeu long où là finalement ce sera vraiment des points clés dans l'histoire où tu vas progresser, quoi. Là, on te dit, ok, c'est court, mais quand tu vas y aller, ton voisin qui aura joué au même jeu, il aura pas du tout eu la même expérience que toi, quoi. Et du coup, ça fait vraiment une expérience qui est beaucoup plus axée sur le roleplay et qui, moi, me paraît intéressante justement pour un jeu de rôle, quoi.
Mais regarde, par exemple, tous les jeux de rôle, que ça soit occidental ou bien japonais, en général, si tu fais que la quête principale, c'est finalement assez court, quoi, parce que la plupart du temps, c'est tu te balades, tu vas faire des quêtes annexes, etc. Alors que si tu suis que le scénario principal, bon, c'est vrai que ça va quand même mettre 20-40 heures, enfin après, parce que
enfin, surtout 40 heures. Hein.
Non, mais après on peut pas vraiment savoir, parce qu'entre temps, toi, tu vas leveler. Tu vas aller te balader un petit peu. Si tu fais que la quête principale, c'est sûr qu'au début, tu vas faire un peu de quête secondaire.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, sur les JRPG à l'ancienne, c'est une centaine d'heures pour moi. Donc, c'est pour ça.
Ça, c'était à l'époque. Mais je sais pas, par exemple, si on pouvait tracer et skipper toutes les cinématiques sans faire de combat annexe, peut-être que ça ferait 20-30 heures, quoi.
Dans tous les cas, pour moi, ce n'est pas un défaut du moment que c'est bien fait, en fait. C'est vraiment ça la question, c'est que il faut pas que ce soit, tu sais, des détails, quoi, en fait, les choix qu'on va te proposer. Il faut pas que, en gros, quand tu vas refaire le jeu, le fait d'avoir choisi B au lieu de A, ben finalement, c'est un micro-changement qui n'apporte pas un bouleversement par rapport à l'histoire, quoi. Et il faut aussi que ce soit des choix qui t'impliquent, le bar. C'est-à-dire que quand tu fais ces choix-là, ça te prend vraiment par les tripes. Alors certes, ça sera que 20 heures, mais au moins, ce sera mieux qu'un jeu, par exemple, qui fait plus de 100 heures de jeu, et où finalement, il y a que certains moments clés où là, t'es dans l'histoire, et le reste du temps, t'es plus en mode farming, tu vois, ou en mode, vas-y, je vais chasser des monstres, ou ce genre de choses, quoi. Franchement, ça peut être cool.
Ouais.
Après, moi, je suis plus du côté d'ATH, c'est-à-dire que personnellement, ça me fait pas forcément peur de jouer à un jeu qui est super long. La preuve, j'ai joué à Xenoblade pendant plus de 120 heures, hein, donc voilà. Mais par contre, ça m'emmerde, en fait. Parce qu'en fait, j'ai tellement de jeux que j'ai envie de faire. Mais le truc, c'est que je suis tellement immergé dans ce jeu-là que je peux pas passer à autre chose, en fait. Comme dit ATH, alors sauf sur The Witcher, parce que The Witcher, c'est un cas à part, comme je connais les romans par cœur, si tu veux. Je suis pas perdu quand j'y reviens après avoir fait une pause de 2 mois, quoi. Parce que je sais qui fait quoi, etc. Alors que, par contre, un jeu où je connais pas forcément le setting, l'univers, etc., surtout quand c'est un setting un peu compliqué ou même un peu particulier, tu vois, le fait d'y revenir, par exemple, je me dis un Xenogears, où là, t'as un scénar super alambiqué, ou... Enfin, voilà, si tu lâches 2 mois, mais laisse tomber, quoi. Faut recommencer le jeu, quoi. Parce que là, t'arrives, tu captes plus du tout les détails du scénar, c'est juste pas possible, quoi. Bon. Je vous propose de passer à la suite, messieurs. Et nous allons maintenant parler, mon cher Mandren, d'un certain Horizon. Alors, c'est une nouvelle plateforme, je crois, qui a pour objectif de regrouper nos différentes bibliothèques de jeux, c'est ça ?
Ouais, c'est l'idée. En fait, Horizon, c'est une organisation à but non lucratif qui se propose, en fait, d'agréger toutes les bibliothèques de plateformes comme Steam, Uplay, Origin. Pour, en gros, avoir une seule bibliothèque de jeux et, à terme également, un seul magasin qui permettrait de comparer plus facilement et plus rapidement les prix, que ce soit sur Uplay, Origin ou Steam, même si dans les faits, on sait qui est le moins cher, mais bref.
Je m'avancerai pas trop, Morwan, sur ce terrain-là, parce que Origin, régulièrement, ils font des prix qui sont intéressants. Enfin, en tout cas, sur les références qu'ils ont, mais c'est le problème d'Origin, c'est plutôt le catalogue, à mon avis.
C'est ça. Donc, du coup, l'idée, en fait, ça serait de pouvoir accéder à l'intégralité de vos jeux sur une seule et même plateforme, qui est en open source. Et il y a plusieurs, on va dire, davantages, entre guillemets, à ce launcher-là. C'est, d'un, la praticité pour l'accès aux jeux, deux, le comparatif plus facile sur le magasin, et trois, les conditions de vie privée de l'utilisateur qui ne changent pas, en fait. En gros, c'est ça les trois objectifs de Horizon, qui est actuellement en pré-bêta, d'ores et déjà disponible sur le site internet d'Horizon. Donc,
je vous mettrai le lien en description du podcast.
Sur le papier, ça a l'air relativement intéressant.
Alors là où je suis dubitatif, moi, c'est que, par exemple, vous savez tous qu'il y a des jeux qui requièrent que Steam soit lancé. Pour se lancer.
Bah, de la même manière que pour Uplay et Origin.
Et du coup, comment ça va fonctionner? Est-ce qu'il va lancer Uplay et
voilà,
Origin?
C'est ça. Est-ce que c'est juste un front-end et qui, derrière, va te lancer, au final, ton client Origin ou ton client Steam, etc. Est-ce qu'ils peuvent faire autrement que passer par là? Aujourd'hui, j'en suis pas sûr.
Ça m'étonne même beaucoup.
Bah, sinon Steam s'en passerait en fait.
Voilà. Et du coup c'est le côté un peu dommage, c'est-à-dire que aujourd'hui si t'achètes un jeu, parce que alors après on sait pas exactement comment leur entre guillemets catalogue va être fait, à savoir est-ce qu'il y aura le détail, c'est-à-dire quand tu vas sur un jeu est-ce qu'il y aura écrit sur quelle plateforme derrière il tourne, c'est-à-dire Steam, Origin, etc. Enfin Uplay, etc. Et le problème c'est que si t'achètes un jeu et que t'as pas la plateforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas acheter ton jeu, ils vont te demander de t'inscrire sur la plateforme Uplay par exemple pour pouvoir y jouer, le télécharger, etc. Dans ce cas-là, le seul intérêt pour moi ça serait que ça une offre comparative directe.
Ouais, pour moi, c'est vraiment la partie intéressante du projet, c'est-à-dire que en gros, ça va donner plus de visibilité aux plateformes concurrentes de Steam, en fait.
Ouais.
Par rapport à ce qu'a dit Morgan tout à l'heure, on sait tout ce qui est le moins cher. On va peut-être avoir des surprises, en fait.
Disons que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a des soldes de Steam, tout le monde en parle beaucoup plus que quand il peut y avoir des soldes sur Origin ou ce genre de choses, quoi.
Voilà.
Donc, la problématique, c'est le catalogue.
Voilà, bien sûr.
Pour Origin, surtout.
En plus, comment tu gères les mises à jour, tu vois? Enfin, t'es obligé de lancer Steam, c'est pas possible. Enfin, moi, vraiment, je pense que l'intérêt du truc, c'est d'avoir un client qui te permet d'un coup d'œil de voir, ok, ça c'est le moins cher.
Ah, un catalogue.
Voilà, c'est ça. Et ça met vraiment en avant la concurrence, c'est pas plus mal finalement, parce que c'est vrai que Valve, en ce moment, c'est le bordel un peu, je trouve, sur Steam. Enfin, il y a n'importe quoi qui sort. et d'avoir une plateforme un peu qui permet voilà de mettre un peu plus en avant les concurrents, c'est pas plus mal.
Mais dans ce cas-là, qui s'embête pas, qui fait juste un site internet et puis voilà, qui s'embête pas à faire une appli pour
C'est ça, c'est est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir une application pour ça, c'est la question que je me pose.
À moins que voilà, ils ont d'autres idées derrière et où est-ce qu'ils ont déjà contacté Steam, Origin et les autres pour pouvoir lancer des trucs à la volée sans passer par le client, etc. Je vois pas quel intérêt auraient les autres à le vouloir, donc je sais pas.
Quand t'as un jeu qui passe forcément par Steam, c'est parce que Steam est un DRM. Enfin, je veux
dire, on va pas
se cacher derrière son petit doigt, quoi, tu
vois. Oui, parce que j'allais prendre justement l'exemple inverse qu'avec GOG, tu n'es pas du tout obligé de passer par GOG Galaxy pour lancer tes jeux, quoi.
Ouais.
Ouais. Mais sauf que, enfin, oui, là, dans ces cas-là, pour le coup, ça a un intérêt parce que ça te permet de gérer ta bibliothèque GOG sans avoir installé Galaxy, en fait. Mais
c'est
ça. Ça te fait un launcher alternatif qui te permet de gérer tes jeux Steam en même temps, quoi.
Mais alors, justement, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Vous savez que sur Steam, vous avez la possibilité de rajouter un jeu qui ne fait pas partie du catalogue Steam.
Oui, c'est ça.
Vous savez également, si vous avez testé un petit peu cette fonctionnalité, ça fonctionne pas toujours très bien.
Alors, moi, je sais pas, j'ai juste deux jeux dessus, donc...
J'ai essayé plein de trucs. Il y en avait certains, c'était des jeux Blizzard. L'autre, c'était Minecraft. Mais en gros, ça fonctionne pas.
Ouais.
Pour ces jeux-là, ce que voudrait faire Horizon, c'est justement un agrégateur qui pourrait scanner en gros les jeux que t'as sur ton ordinateur et te permettre d'avoir un launcher, un client dédié pour l'intégralité de ta bibliothèque, que ça soit Steam, Origin, Uplay, GOG ou les jeux que t'as tout simplement installé tout court sur ton ordinateur, quoi.
Et peut-être justement que ça fonctionne pas si bien sur Steam parce que Valve a pas forcément plus intérêt à...
Ouais.
Est-ce que tu gères les plateformes concurrentes
C'est sûr.
Donc voilà. Bon, écoute, on verra. Le projet me paraît sympathique. Après, est-ce qu'ils pourront le mener à bien? Ça, c'est une autre question. Nous allons maintenant parler de Metroid Prime Federation Force, qui a une vidéo récemment qui a été diffusée sur le net.
Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler?
Non mais ça fait pas envie. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un FPS multi mou du cul en fait.
En même temps, c'était à peu près logique que ça soit mou du cul vu que ça soit sur 3DS quoi. C'est pas la console pour faire des
ouais,
FPS.
Ouais, mais à ce moment-là, si tu veux, tu rajoutes des fonctionnalités de gameplay qui font un peu abstraction du côté FPS pour rajouter des trucs un peu fun, tu vois. Enfin, je sais pas, mais des puzzles qui requièrent de la coopération. Parce que là, pour le coup, j'ai pas tellement vu de puzzles sur les phases de jeu qu'on a vues.
Mm-hmm. Non, mais ce qu'on voit là, c'est que c'est mou et c'est moche en plus.
C'est mou, c'est moche. La DA est à chier.
Voilà.
Enfin, c'est pas une DA Metroid, quoi.
Non, mais en fait, moi, ce qui me fait chier avec ce jeu-là, c'est que entre guillemets, ils ont annulé un vrai Metroid pour faire ça, quoi.
Bon, après, je sais pas s'ils ont annulé un vrai Metroid pour faire ça, mais en tout cas, ils n'en ont pas fait un, ça, c'est sûr.
Non, mais bah, quand je te dis ils ont annulé un vrai Metroid pour faire ça, c'est-à-dire que à la place de faire un vrai Metroid en 2D, sur 3DS, comme à l'ancienne, avec tout le côté labyrinthique, etc.
Ou même innover, tu vois, enfin, essayer de faire un vrai nouveau Metroid, mais qui respecte l'esprit de la licence, quoi.
Ouais. Mais là, on voit cette bouse, là. Enfin, c'est... Voilà, quoi. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus, c'est...
À la limite, si ça avait été un FPS assez péchu, tu vois, sympa, qui fait un peu envie, tu dis, bon, ok, c'est pas un Metroid, mais au moins, c'est un jeu qui a l'air intéressant, tu vois.
Ouais.
Mais là, enfin, c'est un FPS multi qui a pas de pêche, quoi.
Et Metroid, déjà, c'est pas une licence qui vend beaucoup. Et là, les gens vont voir ça, ils vont voir Metroid, ils vont dire, qu'est-ce que c'est que Metroid, je connais pas. Quand tu vois les vidéos, bah ça donne pas envie du tout. Et même pour moi, la DA de la bande-annonce là qu'on voit, ça me fait pas penser du tout à Metroid quoi. C'est dégueulasse.
C'est Lego. Ouais. C'est pas Lego, mais enfin si tu veux, ça fait jouer pour enfants en fait.
Ouais, mais même je sais pas, les jeux Lego c'est 20 fois plus joli que ça quoi.
Ah, c'est une identité quoi.
Là c'est quelconque. En fait, je sais pas, ça laisse un goût de quelconque.
Je trouve que ça fait 3D PS1 en fait.
Voilà, ou N64 même.
Y a aucun feeling dans les armes. Ça a même pas l'air d'être un bon FPS, en fait, c'est ça mon putain de problème, quoi. Alors, ok, vous avez saccagé la licence Metroid, très bien, mais au moins faites un bon FPS avec, quoi. Quand tu vois Splatoon, ça a 10 fois plus de gueule que ça, quoi. Je comprends pas, une boîte qui est capable de produire un jeu comme Splatoon, qui a quand même, on peut lui reprocher ce qu'on veut, il a quand même une identité visuelle, ça avait de la pêche, le concept était original, ça faisait envie. Là, même en tant que jeu en lui-même, si on fait abstraction de toute la partie polémique sur est-ce que c'est un Metroid ou pas, si c'était un jeu qui s'appelait autrement que Metroid, mais personne n'en parlerait en fait. Tout le monde s'en foutrait parce que c'est un jeu qui fait pas envie.
Mais même clairement. Là, c'est un jeu, qui s'appelle Metroid, mais personne n'en parle, quoi. Tout le monde s'en fout. Enfin, les gens, ils ont gueulé à l'E3, quoi. Ils ont vu ça, ils ont dit, putain, mais c'est de la merde. Et effectivement, de ce qu'on en voit, c'est pas terrible, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça me donne pas envie d'y jouer.
Tu m'étonnes que les gens s'en foutent. Attends, et le pire, c'est qu'ils auraient très bien pu avoir, quelque chose d'intéressant dans les mains, parce que ça fait 6 ans qu'on attend un nouveau Metroid. Le dernier, c'était Metroid Other M sur Wii. Moi, j'avais bien aimé. Et là, on te sort un Metroid Prime, qui est pas un Metroid Prime parce qu'il est divisé en missions. Il a une esthétique qui est hyper chelou. Tu sais, avec les petits bonshommes qui ressemblent à des mis en armure que tu rentres à l'intérieur d'armures de méca qui sont nuls à chier. Visuellement, quand tu regardes, quand t'es en vue FPS, parce que bon, à la rigueur, les armures, on s'en fout, on les voit pas. Mais quand tu regardes visuellement ce que t'as à l'écran, j'ai l'impression de revoir le Metroid qui était sorti sur DS, Metroid Prime Hunters, donc 2006. Il y a 10 ans, tu te dis, mais elle est où l'évolution là-dedans? Alors déjà, le côté, au final, on fait pas un Metroid parce que on te le charcute en mission. À la rigueur, pourquoi pas? Enfin, on peut éventuellement faire un truc intéressant là-dedans. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que t'as aucune difficulté quand tu regardes les mecs naviguer dans le niveau. Déjà, il y a quasiment pas d'ennemis.
C'est vide. Putain, mais
le peu d'ennemis qu'il y a, il les défonce en 3 coups.
Mais surtout, t'as vu la rapidité des ennemis, ils arrivent à 2 à l'heure, quoi.
Les animations, c'est... Oh mon dieu.
Moi, ça m'emmerde parce que j'ai peur que Nintendo voit les chiffres de vente de cette merde et dise « Ah ouais, mais vous avez vu les ventes du dernier Metroid Prime ?» Oh, mais c'est pas la peine qu'on en refasse un autre, hein.
Bah après, est-ce qu'il n'y a pas un effet un peu NX aussi ? Dans le sens où là, bah, alors on sait, voilà, en principe, ça va être une console de salon, mais qui va peut-être être un peu portable aussi. Est-ce que tout simplement, les studios se disent, on avait commencé le jeu, on le finit un peu à la pisse, parce qu'on va préparer un jeu pour la future plateforme, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un effet qui peut arriver?
Ouais, alors,
Je sais pas, ça ressemble pas à Nintendo quand même, parce que je rappelle que, enfin, à chaque fois, ce qui s'est passé quand ils ont fermé une console comme ça à l'arrache, enfin, je veux dire, les jeux étaient en général quand même bien finis. C'est juste que ils lâchaient complètement le catalogue après, quoi. Mais ils ont toujours terminé leur jeu correctement, quoi. Et là,
Next Level Games, ils nous ont pas habitués à ça.
Enfin, ouais. C'est sûr.
Ça, c'est le Mario Football là de 2007 sur Wii. C'est Luigi's Mansion 2 sur 3DS. Donc, ils ont quand même prouvé qu'ils savaient faire des trucs intéressants sur 3DS. Là, ils te mettent Metroid Prime Federation Force. Qui est, franchement, ça m'emmerde, hein, mais c'est ni fait ni à faire, quoi. Moi qui aime la licence, franchement, s'il y a bien un truc qui m'intéresse pas, c'est ce truc-là, quoi.
Non, mais en plus, le pire, c'est que Metroid, c'est une licence Nintendo qui est tellement géniale, malheureusement, qui est pas connue du grand public, tu vois. Mais cette licence, il y a tellement de choses à faire avec. Je sais pas, par exemple, le remake sur GBA du premier Metroid, c'était Metroid Zero Mission.
Ouais, c'est ça.
Quand tu vois le travail qui a été fait sur le remake et sur GBA aussi, le Metroid Fusion.
Metroid Fusion, mais incroyable ce jeu.
C'est deux jeux, mais totalement terribles. Le Zero Mission, il est totalement labyrinthique, et le Fusion, il est un peu plus linéaire, tu vois.
C'est deux jeux différents dans la licence Metroid.
Voilà, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a le gameplay dans Metroid, il est évolutif au fur et à mesure de l'histoire pour que Samus débloque des nouvelles capacités. Alors que là...
Après, c'est 18 minutes de vidéo, hein. Peut-être qu'après, ça va changer, qu'on va débloquer des trucs. Non, mais
là, si tu veux, j'ai pas l'impression qu'on va voir la Morph Ball ou bien ce genre de truc-là, quoi.
Bon. Voilà. Je propose qu'on arrête de tirer sur l'ambulance.
Ouais.
Ah merde. Je viens de voir la news suivante. En fait, on va continuer. Morgan, est-ce que tu peux nous parler des soucis de sauvegarde de Hitman?
Alors, si vous avez acheté la première partie du contenu épisodique Hitman, qui est sorti, c'était quand? C'était en mars. Vous avez peut-être eu des soucis de sauvegarde. C'est des soucis de sauvegarde qui sont en fait liés à votre connexion Internet. Je m'explique. Le nouveau jeu Hitman, édité par Square Enix et développé par IO Interactive, se veut être un jeu qui évolue constamment. Et ce qui, en gros, vous force à être connecté sur Internet. Le problème, c'est que si vous avez le malheur d'être déconnecté d'Internet pendant une mission, eh ben votre sauvegarde, elle sauvegarde plus. Et le problème, en fait, c'est que IO Interactive est tout à fait conscient de cette problématique-là, sauf que, en fait, sa réponse, c'est « Mais, en fait, c'est prévu comme ça, désolé les mecs.
» Non, en gros, l'idée, c'est que le jeu continue d'évoluer en ligne, en fait. Ouais. Du coup, comme le jeu continue de changer en ligne, parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont uniquement liées à la partie en ligne du titre, bah, ils peuvent pas sauvegarder parce que ce que t'as en local, c'est pas ce qu'il y a en ligne.
C'est ça.
Problème insoluble. C'est le
même problème, en fait, si tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais le faire en offline, en fait. Tu te mets en offline, tu fais ton machin, tu sauvegardes, tu te remets sur Internet. Et là, par mégarde, tu restes sur Internet. Oula. Et bah, tu peux plus jouer à ta sauvegarde.
Tu peux plus jouer à ta sauvegarde que t'as fait offline.
Ouais. Il faut que tu te redébranches d'Internet.
Non, mais c'est quoi cette merde?
C'est kafkaïen un peu comme problème.
Ça s'appelle un DRM, en fait. Enfin, moi, je le vois comme ça, après, bon.
Non, mais à la rigueur, assumez-le, quoi. Tu sais, genre, bah oui, ok, mais tu dis tu ne peux pas jouer à ce jeu hors Internet, et tu dis pas, ok, mais, enfin, tu dis pas aux gens que c'est un jeu normal, tu vois.
Ah.
Non, mais enfin, là, enfin, ce qui me ferait rire, c'est que les gens, ils disent, ouais, mais bon, on est obligé d'avoir Internet pour jouer à Hitman en ligne. Bah, c'est normal, c'est un jeu que tu as téléchargé, donc t'es obligé d'avoir Internet, entre guillemets, tu vois. Donc
attends, je comprends pas le raisonnement. C'est un jeu que t'as téléchargé pour être aussi. Ouais, non, mais
laisse-moi finir. Non, parce que en fait là, si tu veux la réponse de IO Interactive, c'est-à-dire qu'il pourrait pas dire aux gens, ouais, mais le jeu vous l'avez téléchargé, donc c'est obligé.
Vous êtes obligé de sur Internet, d'accord. Je vois ce que tu veux dire.
Voilà, mais après, enfin, je veux dire, c'est leur système, c'est vraiment nul, parce que bon, admettons que le jeu sort en boîte, parce qu'il doit sortir en 2017. Moi, j'achète le jeu, tranquille, je me dis, bon, bah, voilà, c'est Hitman, je connais Hitman, j'ai pas envie de me faire le jeu en ligne d'abord, je vais me faire le mode d'histoire tranquillement offline. Hop, je joue. Et puis là, en fait, finalement, bah, après, je me dis, bon, bah, je vais faire un contrat en ligne, et au final, je peux plus reprendre ma sauvegarde offline. Alors, tu vois qu'un jeu qui a un truc, on va dire à peu près un système de sauvegarde asynchrone aussi, comme ça, c'est, la saga des Souls. Et dans les Souls, bah, que tu sois offline ou online, tu reprends ta sauvegarde immédiatement, que n'importe où t'as laissé ta partie.
Ouais, mais la différence avec les Souls, c'est que les Souls, la partie en ligne, finalement, c'est que la partie PVP avec les joueurs, ATH. Là, le souci, c'est que...
Ouais, il y a aussi la partie
asynchrone. Comme t'as plein de missions qui sont... Oui, mais le truc, c'est que c'est toujours hébergé en local chez toi, en fait. Alors que là, c'est hébergé sur un serveur. Tous les changements qu'il y a sur le jeu sont hébergés sur le serveur, en fait.
C'est un MMO, c'est principe MMO.
Voilà, c'est ça. Tous les events qui sont générés, en fait, sont générés par le serveur. Donc, c'est pas côté client que ça se passe. Contrairement à Souls, en fait, ça se passe sur ton client à toi. Et c'est les gens qui viennent sur ta partie à toi, en fait. Donc, du coup, pour se garder, ça pose aucun souci, tu vois. Puisque même si t'es en ligne, finalement, la seule différence, c'est que t'as le joueur qui était avec toi, il est plus là, quoi, en fait. Et c'est tout. Alors que là, c'est carrément des changements dans le jeu qui sont opérés en ligne. Donc, forcément, bah, c'est niqué, quoi. Mais ce que je comprends pas, c'est que on me fera pas croire que ces trucs qui sont gérés en ligne, tu peux pas faire une version en local chez toi qui fait exactement la même chose. Gérer des events aléatoires, par exemple, tu peux le faire en local. Hein. Arrêtez-vous de ma gueule, là, c'est bon.
Non, mais même ça, c'est... Enfin, je veux dire, pourquoi absolument ta partie offline n'est plus disponible une fois que t'as lancé le mode en ligne? Enfin, je sais pas, c'est totalement bizarre, ça.
J'ai la réponse d'IO Interactive à Eurogamer pour être un petit peu plus concret. Donc, je cite... Il est possible de profiter du jeu hors ligne, mais afin d'assurer la progression du joueur sur le contenu live, donc c'est tous les trucs qui se passent côté serveur, tout ce qui est ajout de missions, de challenge, de cibles, de contrats, machin et tout. Donc afin d'assurer que la progression du joueur reste correcte et à jour, les statuts de sauvegarde qui sont en ligne ou hors ligne sont séparés, en fait.
Voilà, ça c'est normal, c'est logique.
Voilà. Et ce qu'explique Destructoid, en fait, c'est effectivement tu peux jouer hors ligne, mais les sauvegardes ne se synchronisent pas correctement la prochaine fois que tu te connectes sur Internet, en fait.
Voilà. Et le problème, en fait, c'est que si vous voulez, ce qu'ils auraient dû faire, c'est que soit tu joues en ligne avec un perso, une sauvegarde en ligne, point. Soit tu fais une sauvegarde hors ligne. Il faudrait complètement séparer les deux. Là, comme la frontière elle est floue, parce que apparemment tu peux essayer de synchroniser ta sauvegarde et tout, ça fout la merde, en fait. Ouais. Sur Diablo 2, t'avais ton personnage en ligne, voilà. Et quand tu voulais jouer avec ce personnage-là, tu ne pouvais jouer qu'en ligne avec ce personnage-là. C'était pour éviter le cheat, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Et t'avais ton personnage hors ligne, point. Mmh. Et c'est tout. Et puis voilà, enfin je vois pas où est le problème en fait. Ce qu'il fallait faire depuis le départ, c'est voilà, tu veux jouer en ligne, très bien. Bah écoute, t'as ce personnage qui est offline, tu ne peux pas jouer en ligne avec, et puis c'est tout.
Non mais en fait, je pense qu'ils ont fait ça, c'est pour que, bah vu que chaque épisode met un mois à sortir, et que bah en fait c'est très très court, bah au final ils veulent que les gens jouent en ligne, parce que si tu fais que la mission qui dure 15 minutes...
Bah en fait c'est pour créer des événements qui voilà. Te poussent à rester quoi.
Parce que sinon tout le monde va dire, ah c'est le jeu, c'est de la merde quoi, ça dure 15 minutes, mais... Voilà, j'ai payé 15 euros, mais au final, j'ai fait ça super rapidement. Alors que là, s'ils te disent, ouais, mais bon, t'as vu, t'as fait la mission, mais maintenant tu peux faire la mission comme ça, comme ça, comme ça. Mmh. Et là, les gens vont dire, ouais, bon, bah peut-être que la pull va passer un petit peu mieux, quoi, si tu veux.
Et puis, moi, je pense que ça a aussi l'avantage que avec une version en ligne, ça permet de combattre un peu le piratage aussi, tu vois. Enfin, faut pas se cacher non plus, quoi. C'est l'idée vraiment, c'est de mettre de plus en plus de fonctionnalités en ligne pour que les gens ne puissent pas s'en passer, en fait, tout simplement. Sauf que quand c'est mal branlé comme ça, ben voilà, résultat, c'est tout. Bon, est-ce qu'on passe à Final Fantasy XV, sa vie, son œuvre?
Ah, quand même.
On peut.
Bon, Ben, good luck, HF. Non, parce que là, en gros, on a eu un event Square Enix à 4h du matin. D'ailleurs, GG ceux qui sont restés debout jusqu'à 4h du matin. Personnellement, j'avais autre chose à faire.
Lol.
Et donc, Square Enix a sorti le grand jeu, j'ai l'impression, mon cher Ben.
Bah, c'est à peu près ça, ouais, ouais. On attendait notamment l'event par rapport à la date de sortie du jeu qu'on a eu. Donc le jeu va sortir le 30 septembre 2016. Donc déjà c'est une grosse annonce parce qu'on savait même pas s'ils arriveraient à le finir dans les temps pour cette année. Et là il annonce 3 mois avant la fin d'année quand même. Donc c'est un peu couillu parce que bon voilà, on y reviendra plus tard sur la qualité du jeu, mais voilà. Et puis ça a pas été tout, ils ont fait vraiment, ça a été vraiment la grosse soirée où on a eu notamment beaucoup de vidéos sur le jeu avec alors pas forcément énormément de gameplay. Mais beaucoup de vidéos sur l'univers du jeu, où on voit certains paysages, certains lieux, c'est beaucoup de musique aussi, qui rappelle, moi que j'ai beaucoup aimé la musique. Ça faisait un moment que d'aller Final Fantasy, ça m'avait pas marqué, et là, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment pas mal.
Musique, très Kingdom Hearts, un peu.
Ouais, j'avoue, ouais.
Musique avec un peu, tu sais, chant, pas grégorien, mais un truc un peu qui se rapproche de ça, mais c'est, voilà, une musique un peu, de cathédrale, je sais pas comment dire, tu vois, c'est...
Ouais, c'est... Mais du coup, ouais, ça, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et donc après, bon, on va parler aussi des autres annonces. Donc en plus de la sortie du jeu, alors il y a une annonce d'un film d'animation qui sortira avant le jeu et qui sera dispo direct en Blu-ray ou en streaming. Il ne passera pas par la case cinéma, ce qui est plutôt pas mal vu les précédents tests avec ça et les Final Fantasy, ça a pas été un succès, donc voilà, direct en streaming. Il s'appellera Kingslave, Final Fantasy XV. Ça racontera notamment l'histoire du roi, enfin bon, ça va être vraiment un background pour le jeu. Il n'y aura pas vraiment les personnages du jeu, mais ça sera vraiment dans l'univers, et voilà. Mmh. Ensuite, on va avoir droit à un anime de 5 épisodes, gratuitement.
Dont on a déjà eu le premier
voilà,
épisode.
Voilà, le premier est déjà disponible, et ils vont sortir, je crois que c'est à peu près un par mois, jusque voilà pour le dernier, qui sera un peu aussi avant la sortie du jeu. Et là, par contre, qui reprendra les quatre personnages qu'on a pu voir dans toutes les bandes annonces, Noctis et les trois autres dont j'ai pas les noms là, mais
les bros.
Ouais, voilà, ouais. Qui là pour le coup voilà va être vraiment juste avant a priori le début du jeu. Donc ils vont nous expliquer un peu voilà, c'est un peu une intro au jeu.
Bah, j'ai même l'impression qu'il y a des scènes du jeu parce que la scène dans le snack bar par exemple du premier épisode
on sait pas si c'est tout à fait la même du coup, ouais, mais ça peut, ouais.
Bah voilà. Peut-être qu'ils aiment bien les snack bars. Hein.
Et une annonce encore plus intéressante, c'est qu'il y a une démo qui est disponible immédiatement, gratuitement comparée à la première qui était accessible en achetant Final Fantasy Type-O. Donc là, c'est une démo qui est sur PS4 et Xbox, qui est une démo, comment dire, unique parce qu'elle se retrouvera pas dans le jeu en fait. Ils ont développé cette démo vraiment pour cet event, et dans cette démo, on a le contrôle dans de Noctis jeune. C'est une démo qui est plus une démo technique parce que il va y avoir pas mal de possibilités. Enfin, ils veulent vraiment nous en mettre plein la vue. C'est pas vraiment une démo pour tester le gameplay parce que au final on joue un peu, mais c'est pas voilà en termes de temps et de quantité, c'est pas énorme. Et la dernière petite annonce. Alors si, l'autre annonce c'est que on peut le précommander étonnamment. pour des tarifs qui sont dans les cours de ce que font le reste, puisque c'est 60€ pour l'édition Day One, 90€ pour la première édition de luxe, et l'autre qui a une édition de luxe de, enfin, le coffret ultime qui a 270€.
Bon, comme d'habitude, ne précommandé par les gens. Voilà.
Mais je crois que tu sais, quand tu finis la démo, il te propose de le télécharger, de le précommander sur le PSN.
C'est ce que j'allais dire. Mais même déjà, quand t'arrives sur l'accueil de la démo, tu peux jouer et en dessous t'as une ligne commandée. Voilà. Donc c'est...
Ouais, mais bon, je crois que quand tu veux commander la version numérique, c'est 70€ quoi.
Ah la alors ça, je sais. Par contre, j'ai pas fait gaffe.
Non, parce qu'en fait, moi, je suis parti voir juste, si tu veux, pour la feedback, que quand ils m'ont demandé précommander, j'ai mis oui, tu vois. Et j'avais vu le prix, c'était 70€ quoi. Je pensais qu'alors que ça serait je sais pas, autour de 60€, tu vois.
Ouais.
Et donc la date de sortie.
Et la date de sortie bah qui est le 30 septembre 2016. Voilà, donc dans quoi 4, 5 mois, 6 mois.
Ouais, la période chaude de l'année quoi.
ouais, mais c'est alors on en avait déjà parlé ici. Moi je crois que même j'avais dit en podcast de début d'année que bah que c'est un des jeux que j'attendais cette année. Mais on avait tous dit qu'on n'y croyait pas trop à la date de sortie en 2016. Et puis là, voilà, ce que je disais, c'est vraiment... je pense que ça a surpris tout le monde, une date aussi tôt dans l'année.
Bah, c'est surtout que jusqu'à maintenant, le jeu, il avait pas l'air franchement fini. Et,
oui.
Ça fait un peu peur, quoi.
Bah, une date aussi tôt dans l'année... Enfin, toi, tu dis une date aussi tôt dans l'année, mais moi, je dirais plutôt une date 10 ans en retard, quoi.
Oui, non, mais ça c'est un autre problème. Mais par rapport à ce qu'on a, voilà, comme l'a dit Tyran, par rapport à ce qu'on a vu du jeu jusqu'à présent et les retours qu'il y en a eu, je pense qu'il y a pas grand monde qui aurait parié sur une date fin septembre et 2016. Hein. Je pense que y a pas grand monde qui
croyait. J'aurais dit début 2017, quoi.
Voilà, donc, c'était fin. On pensait plutôt voilà fin du fin 2016, période de Noël ou début 2017 avec le retard, quoi.
Donc voilà. Alors. Messieurs, vous avez joué à la démo. Je parle de Ben et ATH. Morgan et moi, nous sommes totalement étrangers à la PlayStation 4, donc voilà.
Et à la Xbox One d'ailleurs.
Oui, aussi également. D'ailleurs, à propos de la version PC, pour le moment, ils ont pas du tout commencé à bosser dessus apparemment, mais
c'est pas prévu pour l'instant.
Ils ont dit que dès qu'ils auraient fini, ils envisageraient. Bah, en même temps, vu les chiffres de vente qu'ils espèrent faire, ils vont devoir la faire.
Oui, c'est ça. Ils vont devoir y passer sur PC. Ouais.
Mais je pense qu'il y aura une version PC qui arrivera.
Bah, c'est sûr. De toute façon. Square Enix maintenant est complètement implanté sur le PC aussi. On avait tous les jeux
de toute façon. La politique de Square Enix sur PC, c'est sortir ces jeux 3000 ans après. Donc
oui.
Voilà.
Et les ventes sortiront
un jour, mais 3000 ans après. Bah, c'est complètement débile d'ailleurs.
Un jour que jamais.
Ouais. Mais enfin, je trouve ça complètement débile parce que je veux dire, quand on me dit qu'ils ont pas la possibilité de sortir les versions PC en même temps, enfin, s'il vous plaît, la version PC elle existe. Hein. C'est celle qu'ils ont utilisée de base pour travailler sur leur jeu. Donc voilà. Hein. Je veux dire, tous les outils sont sur PC. Après, ils exportent pour la console. Donc c'est bon. Enfin bref, après c'est leur problème, hein, j'ai envie de dire. Oui. Moi quelque part ça m'arrange.
C'est notre débat ça du coup. Ouais.
Voilà. Mais par contre, vous avez pu jouer donc à cette démo et qu'en avez-vous pensé tout simplement? Parce que moi je peux vous dire ce que je pense de l'univers, hein, mais après quand on entre dans la partie gameplay du jeu, qu'est-ce que ça donne quoi? Parce que personnellement, je vous avouerai que c'est un univers qui m'attire pas du tout. Mais alors plus j'en vois, mais moins ça m'attire en fait. C'est-à-dire que déjà le héros il m'agace déjà en fait. Tu sais, c'est le petit couillon qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche et qui est chouchouté de partout. Et enfin, ça me gonfle, mais avec un G majuscule, quoi. La direction artistique, enfin, c'est pas du tout mon truc. C'est-à-dire que d'un côté, t'as un univers en mode ambiance années 50, 60, tu vois. Et de l'autre, t'as des serveurs de bars japonais qui servent de héros. Disons que, personnellement, ce que j'ai vu, ça m'attire pas du tout. Alors après, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que en termes de gameplay, c'est intéressant? Parce que je me rappelle de certaines déclarations comme quoi, oui, le jeu sera jouable avec un seul bouton, ce qui fait un peu peur, enfin voilà. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que le jeu tourne bien? Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Alors déjà, bah, pour parler de la démo, donc la première partie de la démo, c'est un peu presque pas de plateforme, mais pas loin. C'est voilà, c'est une prise en main des commandes. Il faut récupérer des orbes sur son passage, activer des espèces de sphères au sol qui permettent d'accélérer le temps ou de changer la météo. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une démo technique aussi dans ce sens-là. Mm-hmm. C'est-à-dire que par moment, voilà, tu vas passer sur une sphère et ça va t'activer un truc qui te fait changer la météo d'un coup. Donc tu passes d'un grand soleil à de la pluie. Et ça, pour le coup, enfin moi j'ai pas eu de problème de framerate ou quoi que ce soit. Ça se fait en temps réel et ça, pour le coup, c'est vraiment joli, quoi. Enfin, c'est ça, ils se sont pas ratés et c'est bien pour ça qu'ils l'ont mis dans la démo. Ensuite, on arrive assez rapidement sur des petits combats où on prend en main, on a déjà deux armes, et j'ai trouvé, alors, le changement d'arme se fait très facilement, donc on avait pu voir, voilà, dans la démo, qu'on a trois ou quatre armes, enfin, dans l'ancienne démo, et on peut les changer quasiment à la volée, donc ça, j'ai trouvé ça très fluide. Après, la démo se finit, on va dire, en 20 minutes, si on n'explore pas tout, enfin, si on n'essaie pas de tout activer, etc. Et moi, je l'ai pas, voilà, j'ai pas tout fait. Athéa, je pense que toi, t'y es allé un peu plus loin dans la démo.
Ouais, je pense que j'ai tout trouvé. Alors, démo inintéressante, en fait.
Pour moi, c'est une démo technique, c'est pas une démo gameplay.
Ouais, non, mais voilà, c'est ça, en fait. C'est démo inintéressante pour la mettre justement comme ça, hein, sur le PlayStation Store. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas Final Fantasy 15, qui s'est pas renseigné dessus et tout ça, il peut se dire si le jeu final est comme ça, c'est de la merde. Parce que en fait, dans la démo, qu'est-ce que tu fais au début? Tu collectes des espèces de petites orbes, comme si tu ramassais des pièces dans Super Mario, quoi, mais ça ne sert à rien du tout, en fait. Mmh. Ou bien, du moins, j'en ai pas trouvé l'utilité.
Ouais, moi non plus, ouais.
Après, tu avances un petit peu, tu suis, en fait, Carbuncle,
ouais,
qui est une invocation de Final Fantasy 4, je crois. Il y a un peu cet aspect imaginaire dans le fait que justement t'es dans le rêve de Noctis.
Oui, voilà, ouais, on n'a pas précisé ça. En fait, c'est cette, ouais, partie de démon. En fait, on se retrouve dans le rêve de Noctis et il faut en sortir. Et il est enfant dans cette partie-là de son rêve. On le joue enfant quasi toute la démo.
Au début, tu commences dans une espèce de grotte. Enfin, c'est un endroit, voilà, un petit peu reculé sur la carte. Après, quand tu sors de ce premier rêve, tu arrives dans une pièce qui doit être chez Noctis, en fait. Mais sauf que tu es tout petit, tu es miniaturisé comme dans Alice au Pays des Merveilles. Donc ça te permet, en fait, si tu veux, de jouer avec les perspectives. Et à ce moment-là, tu peux marcher sur des cases qui transforment justement Noctis en véhicule. Que je trouve pas très pratique, quoi. C'est un peu lourd. Il y a des espèces de châteaux construits avec des briques. Et tu peux t'amuser, en fait, à les détruire, quoi. Donc tu peux voir que le jeu a un moteur physique, en fait. Tout le décor n'est pas figé. Voilà, il y a plein de choses comme ça quand t'avances dans la démo. Et puis, le système de combat, en fait, bah, ça se rapproche finalement assez d'un Kingdom Hearts. Mis à part que je trouve ça beaucoup plus mou qu'un Kingdom Hearts. Et que, en fait, tu peux rester appuyé sur le bouton d'attaque et ça va t'attaquer automatiquement, donc.
Mais il y a, je sais pas, il y a la stratégie, il y a...
Bah là, non, en fait, justement,
bah, c'est... Là, les combats sont très très faciles en plus, donc, disons qu'on n'a pas vraiment à s'employer pour tuer les ennemis. Donc, la stratégie, en plus, on n'a pas vraiment, à ce moment-là de la démo, il n'y a pas de magie, on en a un peu sur la fin, mais voilà, à part avoir deux armes et une attaque, il n'y a rien, il n'y a pas d'invocation, on n'a pas accès à tout ça pour l'instant, donc, c'est vraiment très limité.
Non, mais ce qui me fait peur, si tu veux, c'est qu'en plus, vous dites, oui, on peut rester appuyé sur un bouton pour attaquer automatique.
Mais là, en plus, il n'y a même pas besoin d'esquiver ni rien pour ces ennemis, donc c'est vrai que c'est...
Bah, ouais, surtout que tu n'as pas besoin d'esquiver parce que déjà, les ennemis sont super lents et Noctis, dans la démo, en fait, il ne peut pas mourir.
Oui.
Donc t'es invincible. Donc en fait tu t'en fous, quoi, d'esquiver les attaques et tout ça.
Vous m'envoyez pas du rêve là, les mecs.
Non, mais ça, après, ça me choque pas que dans une démo le héros ne puisse pas mourir, parce qu'en fait dans le jeu.
Non, mais c'est pas ça moi qui me dérange. Ah. T'es en mode attaque automatique et on voit rien de la partie combat, alors que le combat quand même c'est ce qui est le plus important dans un JRPG, quoi.
Alors, mais
après, là, on a pas ça dans la démo. Je sais pas, tu mets un boss.
Non, mais il y a un boss justement. Après, on va y venir. Ouais.
Voilà, c'est pour ça que en fait je peux mettre la charrue avant les bœufs. On allait y venir, mais les créatures qu'on parle c'est des espèces de créatures de base, donc pas très dangereuses.
Puis à ce moment-là on joue encore Noctis enfant, donc c'est vrai voilà. Que voilà c'est un monde un peu enfantin encore au départ, quoi.
Après, dans la démo, justement, tu vois que c'est vraiment une démo technique du moteur, parce que quand tu continues, en fait, un peu plus loin, tu arrives dans une ville fermée, et justement, tu peux encore continuer à activer ces espèces d'interrupteurs qui te transforment en animaux. Et moi, je crois que j'ai eu un alligator et un mammouth. Et en fait, ça, si tu veux, ça te permet d'admirer les moteurs 3D.
En gros, c'est, oh, regardez comme mon tronc moteur, il est beau, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et j'ai eu un troisième, moi, d'animal, une espèce de girafe. Aussi,
ah, ouais. Je l'ai pas eu, moi, la girafe.
Ah bah ouais. Enfin bref.
Excusez-moi, mais c'est... Ah ouais, moi j'ai pas eu la girafe, hein. Ah ouais, bah, ça a l'air cool votre démo, hein. Franchement, on regarde une vidéo de gameplay, on a vu la même chose que vous, quoi.
Ouais, mais là, ce qu'on te dit, ça prend peut-être 10 minutes à faire ça. C'est vraiment, tu passes pas du temps, hein. C'est
ah ultra... oui, c'est 10 minutes.
Ça, okay. Jusqu'à la partie où on en est là, c'est ouais, 10 minutes, peut-être un quart d'heure maximum, quoi.
Bah moi je pense que j'ai mis plus de temps parce que j'ai bien cherché partout, quoi. Donc la démo, quand la première fois que j'ai fait une heure, en fait.
Ah ouais, quand même.
Ouais, j'ai fait une heure parce que bah je voulais tout fouiller, puis je aussi en même temps je faisais un peu de contemplation, j'admirais les décors, tout ça, quoi. Et je m'amusais aussi à, si tu veux, à faire le con. Et puis, comme je savais que c'était une démo technique, j'étais sur mon téléphone et puis je faisais autre chose en même temps. Donc, parce qu'à la fin de la démo, il écrit le nombre du temps total que t'as joué.
Ouais.
Et moi, j'avais vu que j'avais fait une heure. Et voilà, c'est pour ça que je disais au début, c'est une démo que j'ai pas compris pourquoi ils la mettent en avant. Parce que c'est un truc qui est vachement compliqué à vendre. Ça aurait été mieux qu'ils mettent la démo justement de l'épisode du Sky qui était vendu avec Final Fantasy Type 0. Je pense que les gens qui ne connaîtraient pas Final Fantasy 15 auraient eu justement plus de matière et plus de gameplay à ce niveau-là.
Bah genre tu vois, on met cette démo là mais en plus fignolé quoi, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes de finition sur cette démo. Et genre tu vois là, un segment bien fignolé du jeu pour donner une idée quoi.
Voilà, parce que là ça fait vraiment une démo qu'en fait comme si tu montrerais ça à des développeurs quoi en fait.
Mais le boss du coup ça donnait quoi?
Ah bah justement le boss, vas-y Ben si tu veux en parler d'abord.
Bah alors après voilà justement on arrive à la dernière phase où on est dans l'espèce de ville qu'on a déjà vu dans pas mal de vidéos, notamment où celle avec son père là, voilà on arrive à, dans cette espèce de place là où il y a une fontaine au milieu ou je sais pas trop quoi. Et on a un premier boss qui arrive, on se retrouve avec Noctis âgé, pour le coup qui récupère aussi la possibilité de faire de magie de feu. Et alors la première partie du boss est assez simple. Il y a pas vraiment besoin d'esquiver, etc. Et ensuite on se retrouve sur une deuxième partie où là en plus on a la possibilité donc de se téléporter comme on a vu dans les vidéos, de s'accrocher en haut des lampadaires, en haut des murs, etc. Et
donc, là le boss, il y a une interaction avec le décor.
Voilà. Et alors ultra fluide, moi j'ai trouvé ça. Tu passes d'un endroit à l'autre sans problème. J'ai eu aucune baisse de framerate, alors que voilà tu peux te entre guillemets téléporter un lampadaire qui est de l'autre côté de la place, enfin ça prend, c'est instantané quoi. Pour ça vraiment il n'y a pas eu de souci. Et là il y a un peu plus de difficulté avec le boss, mais notamment à un moment voilà il te fait une espèce de grosse attaque et ils te disent à ce moment-là rester appuyé sur carré je crois pour parer et faire une contre-attaque. Enfin voilà, c'est, on te montre qu'il n'y a pas que rester appuyé sur le bouton pour le battre, sans pour autant dire qu'il soit difficile à battre, mais on te montre que ça peut quand même aller un peu plus loin que les premiers ennemis tout bêtes que contre lesquels tu te bats.
Mais le boss au début dans la démo quand t'arrives il est niveau 3.
Après je crois 3 ou 4 et après il passe niveau 15 je crois, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Tu peux refaire le combat du boss niveau 15. C'est là où pour moi le jeu commence à devenir intéressant en fait. Et malheureusement c'est là où la démo se termine.
C'est con, hein.
Ah non, mais ouais, c'est tu commences à avoir les magies, etc. Le fait que tu peux te téléporter, en fait, tu peux t'accrocher si tu veux à des immeubles avec ton épée et puis faire une charge sur un boss ou un ennemi qui est en bas et puis ça fait une attaque qui provoque pas mal de dégâts. Et là, tu te dis, attends, parce que là, je peux le faire, mais donc il y a que un boss, etc. Mais imagine la place remplie de monstres, etc. Tu peux monter super en hauteur pour faire des attaques vrillées comme ça et fendre sur tes ennemis. Je m'imagine le truc, mais je me dis, en fait, c'est un truc de ouf, quoi, ce qu'ils sont en train de faire et d'essayer de nous vendre avec Final Fantasy XV. Après, ce qui manque pour cette démo, c'est que il manque un peu de rythme au combat. Je trouve que Noctis, il est super lent.
Ouais, et c'est le fait aussi peut-être qu'il soit tout seul. En fait, c'est un combat un contre un. Déjà, dans le jeu, on sera, enfin, de ce qu'on en a vu, en tout cas, on sera rarement tout seul. Et les ennemis, à part les gros ennemis, il y en a souvent, notamment dans l'épisode du Sky, on a vu, c'était toujours par pack de 4 ou 5 qui venaient, donc je pense que ça va être plus dynamique à ce niveau-là.
Non mais je pense que, tu vois, même je trouve que ces animations sont un peu lourdes, contrairement à Kingdom Hearts, où justement il a des animations qui sont ultra rapides, parce que c'est un aspect plus cartoon justement.
Oui voilà, c'est le dessin qui s'y prête plus facilement aussi, ouais.
Ça peut être intéressant, ils accélèrent un peu ses mouvements. Mais sinon, rien de bien choquant. Après, sur la version PS4, j'ai eu quelques soucis des fois de saccade quand je tournais la caméra. Mais rien de ouf non plus, quoi. C'était pas le jeu qui était injouable, comme j'ai pu le lire sur certains forums. Après, j'ai pas joué à la version Xbox One, donc je pourrais pas dire. Mais en tout cas, ça a l'air vachement intéressant. Et niveau univers, bah moi, en fait, c'est le Final Fantasy qui me botte le plus depuis le Final Fantasy X. Parce que, justement, le fait de jouer Noctis, qui est un héros qui a eu une cuillère en argent, etc., le fait de le retrouver dans une situation où il n'a pas confronté tous les jours et justement de...
Ouais, mais ça c'est ultra classique dans le JRPG, ATH. Oui. Hein.
Ah bah ça ils innovent pas du tout en termes, enfin de début de scénario,
fois,
en tout cas
c'est,
ils innovent
c'est...
pas. Mais
enfin moi en tout cas je l'ai vu 10 000 fois, donc après
j'ai pas l'habitude de, dans les JRPG j'ai pas l'habitude de jouer en prince en fait. Et j'ai toujours joué un héros amnésique qui se réveille d'un village paumé. Justement, le classique du JRPG, c'est justement le berger qui devient le sauveur du peuple, quoi. À chaque fois, t'étais le pouilleux qui devient héros d'une nation.
Suikoden, Steel McDoll, c'est le fils d'un général.
Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Généralement, c'est soit, soit un fils de quelqu'un qui est connu et qui se retrouve à être banni ou quoi que ce soit, ou qui est pourchassé, ou alors c'est l'effet, voilà, comme tu dis, c'est un héros amnésique et qui doit aller sauver le monde, quoi. C'est soit l'un, soit l'autre, généralement. Et là, pour le coup, ça rate pas. C'est le héros. C'est voilà, comme tu disais, il est né avec avec tout et il se retrouve en fuite.
Pour le coup, ATH, si ça t'intéresse, joue à Tales of the Abyss, parce que c'est exactement le pitch de Tales of the Abyss. Tu joues un prince qui se retrouve vraiment dans la merde pour le coup.
Ouais, bah voilà. Bah, c'est ce côté-là qui m'attire justement, que bah le prince soit en guerre, etc., et que enfin le royaume soit en guerre. De ce que j'ai pu en voir, parce que je me suis pas trop renseigné sur l'histoire du jeu. Mais j'ai vu apparemment il y a 3 royaumes qui se tirent la bourre, et puis il y a une histoire aussi avec tout ce qui est les éons et tout ça. Les quelques, si tu veux, bandes annonces que j'ai pu voir de Final Fantasy XV, ça a l'air d'être un jeu quand même assez noir par rapport à ce qu'on a pu voir. Je me rappelle quand Final Fantasy Versus 13 a été annoncé à l'époque, les premières vidéos c'était un truc vachement sombre. Et là j'espère qu'ils vont continuer dans cette voie-là et nous montrer un Final Fantasy qu'on a presque pas vu ou très peu vu justement. Et pour finir, je voudrais faire une petite mention sur les musiques du jeu. Enfin, les musiques que j'ai entendues dans la démo, c'est juste ouf, quoi.
Mais justement, là, par contre, ce que je trouve dommage, c'est que pour ceux qui n'ont pas fait la démo, pour le coup, on a eu un trailer, et dans le trailer, t'as pas les musiques du jeu, en fait. T'as Stand By Me.
Ouais.
C'est vrai.
Et c'est quoi ça, Stand By Me?
C'est, en fait, c'est une reprise, ouais.
Ah. Je suis désolé, moi, quand on me lance Stand By Me, j'ai toujours l'original dans la tête. Et je fais toujours systématiquement la comparaison. Donc, déjà, c'était mort. Et en plus, je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas mis les musiques du jeu, quoi? Alors, je comprends l'idée, parce que quand tu vois l'anime, etc., tu comprends que, visiblement, Noctis, il va être séparé de ses potes à un moment ou un autre. Enfin, moi, je sens venir gros.
Oui,
comme
ça va bien arriver à un moment ou un autre.
Et,
ouais.
Du coup, Stand By Me, c'est, enfin, voilà, mais restez avec moi, tu vois, enfin, voilà. Et, moi, je pense que c'est ça, mais, en fait, je me suis dit, mais, mettez-nous les musiques du jeu, on s'en fout de Stand By Me, quoi.
Mais justement, en fait, la musique qu'il y a dans la démo, c'est une musique qui était, dans le premier trailer de l'époque, en 2006 ou 2007, là.
Ah et, oui, elle était cool celle-là, ouais.
Ouais, cette musique-là, bah c'est une partie de cette musique qui est dans la démo, qui est là dans le combat final. Et je te jure, quand tu entends cette musique, quand tu affrontes le boss de la démo, c'est juste épique, quoi.
Bon, je crois qu'on en a fait un peu le tour. Alors, juste une question finale, finalement. Une question finale, finalement. Très bien.
Question finale, finalement, sur Final Fantasy. Voilà,
voilà, c'est ça.
On y est.
Donc, est-ce que cette démo vous a au moins donné envie d'acheter le jeu? Peut-être que vous avez déjà envie de l'acheter, hein, je sais pas. Mais
Moi, j'avais déjà envie d'acheter, en fait, avant la démo, quoi. Donc,
ça changera pas grand-chose de ton point de vue.
Non, voilà. Moi, c'est un jeu que j'attendais depuis super longtemps, donc...
En plus, un système combat à la Kingdom Hearts, ça va forcément te plaire, donc.
Ouais, mais enfin, à chaque fois, on dit Kingdom Hearts, mais les premiers, quand même, c'était Secret of Mana, Chrono Trigger, donc, faut pas les oublier non plus.
Oui, enfin, si tu veux, dans,
t'as fait pareil.
Enfin,
ouais.
Déjà, Chrono Trigger, c'est du tour par tour. C'est pas la même chose. Et, Secret of Mana, c'est quand même, enfin, je veux dire, tu t'envoles pas dans les airs, quoi.
Oui.
Pour moi, enfin vraiment, ce qui est Kingdom Hearts, c'est le premier à avoir un système d'action RPG en 3D où tu fais des trucs de fou dans les airs, tu vois. Enfin, voilà quoi.
Chrono Trigger, c'est le premier qui tendait vers l'action RPG par rapport aux autres.
Je suis pas tout à fait d'accord.
Ah si, tu vois les ennemis sur la.
Quoi d'action dans RPG? Il y a
pas de transition entre le fait que tu passes sur le combat, etc. Et c'est beaucoup plus nerveux qu'un RPG classique, quoi.
Ouais, mais ça reste un jeu où tu sélectionnes.
Oui, t'as ta
côté
partout parce que t'as la replay qui monte au fur et à mesure. Mais en fait, c'était Secret of Mana, en tout cas, lui, c'est un des pionniers du action RPG.
Ouais, ça, là, je suis d'accord, par contre. Ouais. Bon, voilà. Mordren, toi, tu ne vas pas acheter une PS4, je pense.
Non.
T'es un peu comme moi, en fait.
Non, par contre, je suis intéressé par le film, qui a l'air magnifique.
Ah ouais, non, mais ça.
Ah bah là, de toute façon, on l'avait déjà dit, tout ce qu'ils font, enfin pour moi, c'est aujourd'hui, c'est la grande qualité, que voilà, que ça soit le film, même le, enfin franchement, moi la démo en termes de graphisme, à un moment en fait, si tu te balades un peu, tu vois une espèce de dragon immense qui sort de l'eau et qui vient plonger à côté de toi, enfin c'est, il t'amène vraiment plein la vue. On l'avait déjà dit, même si le jeu peut ne pas plaire sur ses aspects action RPG, etc., en termes de qualité de jeu, enfin de qualité graphisme, etc., je pense qu'il y a rien à redire, quoi, vraiment. Après, on peut ne pas aimer l'univers. Typiquement, Tyrann, toi, tu trouves ça t'attire pas.
Mais moi, en fait,
ça, c'est un autre problème, quoi.
Si tu veux, je pense que je ne suis pas le public
voilà.
cible.
Voilà. Après, c'est.
Je veux dire, j'ai plus 30 balais. Des héros, j'en ai vu des 10 000 comme lui. En fait, je suis un peu blasé aussi, il faut le dire. Hein.
T'en as trop fait.
Enfin, c'est pas le JRPG que j'attends. En tout cas, ça c'est clair. En plus, bon, même si je suis pas forcément fondamentalement hostile au côté action RPG, c'est pas non plus mon système de jeu favori. Donc, forcément, déjà, tu vois, ça atténue un peu le truc. Mais pour le coup, là, en fait, moi, le point où vraiment c'est bloquant, mais définitif pour moi, c'est le chara-design. Je ne peux pas.
Ouais, c'est...
Mais ça, c'est pas nouveau.
Alors, le truc, tu vois, c'est que je me dis, encore une fois, en voyant l'anime, en fait, ça passe beaucoup mieux pour moi dans l'anime.
Ah bah oui.
Ah oui, mais c'est plus facile de faire passer ce genre de personnage, fait de look dans un anime que dans un univers ultra réel, je suis d'accord.
Parce que en fait, pour moi, il y a vraiment une dissonance totale entre l'univers années 50 et enfin, je vois l'Amérique des années 50 en fait, surtout dans la partie, tu sais, où ils sont dans le ils se baladent en bagnole, ils vont dans un snack bar sur la route, à un moment ils croisent, tu sais, une espèce de camionneuse, enfin c'est,
ouais,
c'est totalement
après, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'univers qui se mélangent parce que t'as un côté aussi un peu futuriste à certains endroits, donc je pense qu'on va en voir beaucoup de paysages et d'univers différents quand même, ouais.
C'est ce gloobie-boulga qui me gêne en fait, c'est-à-dire qu'il y a des styles effectivement différents, mais enfin moi quand je le vois en tout cas, je trouve pas ça cohérent en fait. J'ai du mal avec la cohérence du truc. Alors que même un Xenoblade, tu vois, je trouve le chara-design immonde. Au moins, je trouve que globalement, c'est à peu près cohérent, quoi, tu vois. Et pourtant, Dieu sait que j'aime pas le chara-design de Xenoblade. Oh putain, alors là, c'est une horreur. Même pire que ce Final Fantasy, tu vois. Mais il y a une certaine cohérence. Alors que là, je sais pas, enfin, le style ultra réaliste avec ces persos-là, moi, je peux pas. C'est rédhibitoire. Ça, plus le fait que les héros, je le vois... tiens. Bon. Je vais arrêter de déblatérer. Ben, toi, je pense que amateur de RPG, tu ne pourras qu'y jouer. Hein,
ah ben moi, je pense. Alors, je vais attendre un peu, mais je pense que oui. J'achète pas beaucoup de jeux dans l'année parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais celui-là, je pense que tôt ou tard, je l'achèterai. Ne serait-ce que parce que j'ai envie de le tester, sans dire que je l'attends énormément. Je pense que c'est un jeu que j'achèterai un jour. J'aime bien le Kingdom Hearts, le côté action RPG, mais je pense que c'est ce côté animé aussi, c'est plus facile. Là, dans les JRPG qui font plus réaliste, je préfère le tour par tour. Aujourd'hui, on sait que le tour par tour, il y en a quasiment plus, ça tend à disparaître dans le JRPG. Donc, il faut se faire presque une raison, même si c'est dommage pour moi. Mais voilà, c'est un jeu que j'achèterai. Ouais, je pense que j'y passerai.
Mais par contre, à votre avis, alors, 10 millions de ventes ou pas?
Moi, je pense qu'il peut plaire à une jeune génération, ouais.
Ouais, mais 10 millions, quoi.
10 millions, c'est énorme, hein.
10 millions, c'est ambitieux.
C'est énorme.
Fallout 4, ils ont bien vendu 12 millions.
Mais, par contre, sur le, justement, les 10 millions, c'est pas un chiffre 20 qui balance en disant, ouais, mais de toute façon, c'est Final Fantasy, ça va faire un carton. Là, quand tu regardes la stratégie de communication qu'ils ont déployée le 30 mars, je crois que c'était, c'est de la folie. Ils se donnent vraiment les moyens d'en vendre par palette entière, hein, des FF15. Quand tu vois le nombre de trucs qu'ils ont prévus, le film, l'animé, le jeu gratos, il y a énormément de trucs comme ça qui, tu te dis, ouais.
Ils mettent les moyens, les doigts, quoi. Ils vont au bout de leur truc, quoi.
Ah, d'ailleurs, pour continuer sur les moyens de Final Fantasy, ça sera le premier Final Fantasy avec un doublage FR. Enfin, oui, premier Final Fantasy,
Alors là, par contre, je sais pas pour vous, mais j'ai peur.
Premier Final Fantasy, je veux dire, solo, parce que je crois que le Final Fantasy 14, il y a un doublage déjà FR dessus, non?
Moi, j'ai pas joué avec le doublage FR, donc je sais pas s'il y est.
Alors là, moi, je t'avoue que j'ai même pas calculé, quoi.
C'est bien de l'avoir fait. Je pense que les amateurs de JRPG joueront pas avec le doublage français, quoi qu'il arrive.
Moi, de toute façon, Final Fantasy XIV, j'y joue avec les voix jap.
Généralement, tu joues avec les voix jap et tu mets les sous-titres en anglais ou en français, suivant tes habitudes. Mais voilà, après, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, nous, on est des... Enfin, notamment, je vais parler pour Tyran, qui est un amateur de JRPG. On est des joueurs un peu old school. Donc on n'est pas habitué à avoir des jeux en français, notamment sur les JRPG ou alors avec des doublages. Donc
disons que nous on était à une époque de toute façon on n'avait pas le choix.
Voilà, non mais exactement, et puis c'est
une habitude que le japonais et t'avais pas
c'était c'est mort, une habitude sinon, que tu prends et que tu préfères, c'est tout simplement le même exemple quand tu regardes une série télé en anglais, si tu la regardes en français après, tu trouves ça dégueulasse.
Vas-y. Ça plus le fait que dans le jeu vidéo, on a un autre souci, c'est que quand ils font les doublages dans d'autres langues, les doubleurs n'ont pas le contexte en fait des scènes en général.
Oui, on en avait parlé déjà.
C'est ça le gros souci.
Les traducteurs non plus d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Et du coup, moi c'est pour ça que je suis pas du tout intéressé par une VF entre guillemets, parce que sauf exception, tu vois, je sais que ça va pas être terrible parce que les doubleurs ils font comme ils peuvent, tu vois, mais si on leur donne pas les moyens de faire un bon doublage, bah ça
oui, c'est dur de faire rien, un doublage hein. De qualité quand tu sais pas si quelle émotion tu dois jouer, c'est sûr, ouais.
Moi j'attends la VF justement de Final Fantasy XV parce que la VF de Kingdom Hearts, je préfère la VF de Kingdom Hearts que la VF de enfin que la VO de Kingdom Hearts justement.
D'accord.
Après, parce la VF de Kingdom Hearts, c'est les personnages de Disney, donc tu peux t'identifier à leur voix et tout, donc c'est un peu
mais
différent,
ouais,
je trouve.
Tu peux te dire que justement, comme il y a Disney derrière, ils ont peut-être mis aussi la pression, tu vois, pour que le doublage justement soit bien fait.
Bah, déjà, en termes de doublage pour le film, côté américain, les voix, c'est que des gens connus. Hein.
Ouais. La VF aussi, hein. Enfin, je veux dire,
il y a Sean Bean pour la VO, enfin, même pas la VO parce que c'est la VO, c'est la version japonaise, mais c'est pour la version US.
Enfin, pour le coup, je veux dire, quand même Disney en termes de doublage, ils ont quand même un historique, quoi, si tu veux. Enfin,
oui.
Aladdin, la VF, elle est extraordinaire, quoi. Je veux dire, mais jamais je regarderai la VO, quoi. Tous les jeux de mots qu'il y a dans la VF, qui n'existent pas ailleurs. Enfin, il y a vraiment eu un travail d'adaptation.
C'est des choses qui sont travaillées, c'est pas laissé au hasard.
Le peignoir de la mer morte, tu vois. Enfin.
Ah, mais même les persos Final Fantasy dans Kingdom Hearts, ils ont une VF, ils ont une bonne VF, tu vois. Mm-hmm. Par exemple, que ça soit Sephiroth, Cloud, Squall, Aerith, etc. Ils ont une version française qui est pas dégueulasse non plus. Donc, je pense qu'il y a Square Enix en termes de doublage, ils vont mettre les moyens aussi pour la VF et que ça sera pas une sous-version.
C'est ce que disait Mordrain. Là, ils mettent vraiment tous les moyens de leur côté. Ça va marcher, ça va pas marcher. Ça, c'est une autre question. On verra si le jeu va prendre, mais on pourra pas leur reprocher de pas avoir essayé de faire vraiment un univers étendu, tout ce genre de choses là, quoi.
Ah mais par contre, on disait 10 millions, et si le jeu se foire comme Final Fantasy XIII, entre guillemets, parce que c'est pas si bien vendu pour un Final Fantasy, bah là ça va faire mal à tout l'argent dépensé, quoi. Surtout que le jeu, c'est un jeu qui date de plus de 10 ans, la communication, ils ont fait quand même un effort là-dessus, plus le doublage du jeu en plusieurs langues. Ça a commencé à chiffrer.
Vraiment,
là.
Je pense qu'ils vont le faire, je vais pas dire largement, mais qui vont le faire assez rapidement.
Bah honnêtement, quand je vois qu'un jeu comme Fallout 4, effectivement, comme a dit ATH,
c'est ça,
a fait plus de 10 millions, bon, moi je pensais que Fallout, tu vois, c'était une licence confidentielle, mais visiblement non. Donc maintenant, ouais. Tu vois, je m'attends à tout, ouais. En fait. Parce qu'il y a plein de jeux sur lesquels j'aurais pas parié qui ont cartonné, genre The Division, moi je donnais pas cher de sa peau, hein, très honnêtement. Et là, c'est un carton de ouf malade, quoi. Donc maintenant, je ne m'aventure plus sur les pronostics, parce que l'histoire m'a prouvé à plusieurs reprises que, voilà, quoi, c'est pas parce
que... C'est surtout qu'en plus, les pronostics, c'est pas forcément... très intéressant, quoi. Enfin, c'est-à-dire que si c'est pour te prononcer sur un truc qui dans 6 mois va te
non mais surtout
va
que
te
là
dire,
en
ok
plus,
t'avais raison ou non t'avais raison t'es une merde
là
non,
le truc c'est qu'ils mettent les moyens quand même quoi en termes de com quoi c'est
ah,
ça
ouais,
le truc c'est impressionnant quoi enfin
moi je suis très impressionné ouais.
Moi j'aime bien les pronostics, c'est marrant parce qu'en fait c'est juste comme ça à titre d'amusement quoi c'est pour voir si tu t'as raison si t'as pas raison mais après voilà je veux dire que personne n'a une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer donc
sauf Monsieur Pachter.
Voilà, Monsieur Pachter qui bat derrière, qui se trompe plus.
C'est ça.
Je sais pas comment il a fait pour être analyste lui aussi, mais bon. En tout cas, Square Enix, ça se voit que la conférence, les annonces, etc., ça a été fait avec un paquet de pognon, tu vois.
Voilà. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là, messieurs.
Ouais.
Mmh.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.
Ciao.
Salut.